Bonsoir. Ce soir, vous allez passer une heure en Palestine avec Palestine 13 qui anime. Merci à Sidi, à l'équipe. Je suis Anne, membre de l'association France-Palestine Solidarité. D'abord, je souhaite vous donner les informations locales pour la semaine. Alors, cette semaine ouvre la semaine mondiale d'action pour les sanctions d'aujourd'hui jusqu'au 29 novembre, afin de faire pression sur les États et l'ONU pour qu'ils imposent les sanctions légales à Israël. Vous avez toutes les informations et les actions sur le site Palestine 13. C'est aussi le 22 novembre, vendredi, c'est l'anniversaire de l'indépendance du Liban. Il y aura un rassemblement pour le Liban à Marseille, au Vieux-Port, sous l'Ombrière, à 18h, vendredi 22 novembre. Le 22 également, il y a Comprendre et agir, une conférence avec Michel Collomb et Saïd Bouamama à Martigues à 18h30 à la Maison des Jeunes et de la Culture. Vous avez également toutes ces informations dans l'agenda sur le site Palestine 13. Ces deux personnes vont intervenir également le 23 à 14h, mais cette fois-ci, la conférence est sous inscription. Il faut s'inscrire auprès de urgencepalestinemarseille@gmail.com. Vous avez toutes ces informations sur le site. Le 22, le vendredi 22 également, il y a un concert avec le groupe La Fraternelle de Correns avec Christine Zayed et Alexis Paul, Les Imaginaires Palestiniens. Il y a une masterclass le jeudi 21 et le 22, le soir, il y a un concert. Ensuite, il y a une rencontre avec Camilla Jubron, qui est oudiste et chanteuse des Lumières et des Ombres de l'âme, le dimanche 24 à 18h30 à Marseille. Boulevard de la Libération, 1er arrondissement, Musique en Fabrique. Vous avez les informations également dans l'agenda. Alors, il y a un grand rassemblement avec la France, la Suisse, l'Allemagne, Luxembourg et Belgique devant le Parlement européen à Strasbourg le mercredi 27 novembre à 12h30. Voilà, il y a une conférence de presse des parlementaires européens. Et il y a des covoiturages, les bus, dès maintenant, il faut s'organiser et on vous invite à contacter afps-francepalestine.org. Voilà, sur le site AFPS, vous avez toutes ces informations. Voici pour les informations. N'oublions pas la campagne BDS, vous avez également tout ce qui se passe sur le site Palestine 13. Et si vous voulez savoir plus, vous pouvez regarder sur le site. Alors maintenant, on va écouter juste les enfants du camp de réfugiés à Bethléem, le camp Aïda, pour nous introduire notre émission. Alors, aujourd'hui, nous fêtons également la Journée internationale des droits de l'enfant. Cette journée a marqué la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant il y a 35 ans par les Nations unies. Je suis très heureuse de pouvoir inviter Teresa Bailey, qui est en direct de Angleterre. Teresa est psychothérapeute, consultante pour enfants et adolescents. Elle est semi-retraitée. Elle a travaillé dans la santé publique au Royaume-Uni pendant plus de 30 ans. Ses principaux intérêts cliniques sont le traumatisme, la paix traumatique, la dépression chez les enfants et les adolescents, ainsi que le développement neurobiologique chez les bébés et les tout-petits. Elle est cofondatrice du réseau de santé mentale Royaume-Uni-Palestine, le premier de nombreux réseaux de santé mentale Palestine à travers le monde, y compris en France et Belgique. Il y a un réseau mondial de santé mentale aujourd'hui, il y a 17 pays qui appartiennent à ce réseau. Et si vous voulez savoir plus, vous pouvez faire les recherches. Si vous tapez réseau de santé mentale Palestine, vous allez trouver les connexions. Voilà. Est-ce que Thérèse, vous êtes là?
Oui, oui.
Ah, voilà. Merci beaucoup. Alors, vous êtes donc fondatrice de ce réseau. Comment êtes-vous devenue impliquée dans ce réseau pour la Palestine?
Merci Anne, bonjour et bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Je m'excuse si je fais des erreurs en français, mais j'espère que vous comprendrez ce que je dirai. Alors, avec deux amis, également psychothérapeutes, nous avons créé le réseau UK-Palestine il y a 10 ans. Après avoir visité Palestine une deuxième fois. Au retour à Londres, on a le sentiment qu'on ne pouvait pas s'asseoir et sentir qu'on ne peut faire rien. Alors, on a décidé d'avoir un réseau. C'est le premier réseau. Et après 10 ans, nous avons maintenant 18 réseaux. Le plus récemment, c'est Jordan. Et comme on a dit, la France, Belgique aussi ont des réseaux. Et notre objectif est de sensibiliser à la crise de la santé mentale chez les enfants et les adultes en Palestine, de fournir une solidarité à nos collègues palestiniens et de demander aux cliniciens britanniques de s'abstenir d'assister ou d'organiser des conférences officielles israéliennes sur la santé mentale. Nous avons un groupe de pilotage qui se réunit chaque mois et je crois que tous les réseaux font la même chose chaque mois. Mais aussi, on se réunit tous les réseaux, chaque mois.
Donc, Thérèse, il y a un élément de BDS important au sein de ces réseaux?
Très important. Ça, c'est quelque chose qui... Peut-être, on ne rend pas compte de notre pouvoir. Nous pouvons utiliser notre pouvoir en tant que consommateurs pour refuser d'acheter dans les magasins les entreprises qui soutiennent l'apartheid israélien. Et nous devons comprendre notre pouvoir. Nous avons accompli beaucoup de choses en faisant cela pendant les années de l'apartheid sud-africain. Et il faut qu'on utilise notre pouvoir et pas créer qu'il n'y a rien à faire. Alors, c'est un élément très fort, le BDS, pour nous.
Et au niveau des professionnels de la santé mentale ou le médico-social, peut-être, comment vous encouragez les collègues aux actions qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là?
Enfin, au premier instant, on parle avec les collègues.
Pour introduire votre mouvement.
Oui, oui. Et il y a, je crois que pour le réseau UK, il y a à peu près 1000 personnes qui lisent chaque semaine ce qu'on écrit sur le website.
Mm-hmm.
Nous attendons nous assistons aux conférences. Peut-être on ne peut pas entrer dans la salle, mais on peut dehors donner de l'information à ceux qui vont assister à la conférence pour les informer ce qui se passe en Palestine. Alors s'il y a des conférences, les séances qui dans le sujet, c'est la santé mentale, soit pour les enfants, soit pour les adultes, nous essayons d'avoir une présence dehors.
Ah, donc la conférence se passe à l'intérieur et aussi il y a les personnes à l'extérieur de là où ça se passe, c'est bien ça, Teresa?
C'est ça. Ou si on ne peut pas entrer
oui.
dans la conférence, on attend ceux qui vont assister à la conférence et leur donner de l'information. Parce que quelquefois, il y a des organisations professionnelles qui ne veulent pas s'associer avec le mouvement palestinien.
Oui.
Il craint le cri de l'antisémitisme.
Oui, oui, oui. C'est d'accord. Donc, il y a beaucoup de mouvements à l'extérieur, dans la rue, dans les informations,
oui.
Pour sensibiliser les personnes, c'est ça aussi?
Oui, oui. Et il y a à Londres, maintenant, il y a peut-être une fois par mois une grande manifestation. Très, très grande. Beaucoup de personnes. Et toutes les jeunes. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans, mais maintenant, les jeunes, on les voit en plusieurs noms, en des centaines.
D'accord. Et alors, ça, oui. Mm-hmm.
Et on peut... c'est comment je commençais un groupe spécial pour les enfants palestiniens. C'était à la manifestation. Quelqu'un m'approcha et elle a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je travaille avec les enfants ici, mais l'organisation professionnelle ne veut rien faire. Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, on a commencé le groupe avec quatre personnes. Moi, une Italienne, une Palestinienne, et enfin 5 personnes, et 2 jeunes femmes du Liban.
Donc, en effet, tout ça, c'est commencé en dehors des structures habituelles. C'est vraiment...
Oui.
Oui,
oui.
Et aujourd'hui, vous avez commencé à quelques-uns, quelques-unes, et aujourd'hui?
18. Mais on va envoyer quelques publicités à la site de UK Palestine et aussi faire la profession des thérapeutes d'enfance. L'organisation ne veut pas s'associer avec Palestine, mais il va donner de la publicité autour du groupe.
Donc, nous sommes invités à être très inventifs à ce moment-là. Revenons-nous à notre journée internationale des droits de l'enfant. À votre avis, Teresa, quelle est la signification de cette journée internationale pour les enfants palestiniens?
Je crois que c'est un jour où nous devrions célébrer nos enfants, célébrer leur vie, leur joie, leur développement, pas enterrer le morceau de corps. Et récemment, quelqu'un a dit, et je paraphrase ces mots, parce que je ne me rappelle pas le nom, mais cette personne a dit, le moment de se taire, c'est quand les enfants dorment, pas quand ils meurent. Alors, aujourd'hui, c'est un jour pour se souvenir des bébés, des tout-petits, des écoliers, des adolescents de Palestine et du Liban, parce que leurs enfants ont été effacés, leur futur détruit, parce qu'ils ne sont pas vus par Israël et ses partisans comme des enfants, mais comme moins qu'humains et des terroristes pour des dialogues réels. Le professeur Nadra Kevorkian, palestinienne, professeur, décrit ce processus comme le déenfantement. En anglais, c'est unchilding.
Ça veut dire que chaque enfant de n'importe lequel âge, il est considéré comme un adulte?
Comme un adulte terroriste.
Comme un adulte terroriste. Donc même un bébé peut être considéré comme un adulte terroriste?
Même un bébé. Alors, c'est le jour où l'on se souvient des droits universels des enfants du monde et en particulier les enfants de Palestine et la Convention internationale que presque 200 pays ont signé, à Israël inclus.
Oui. Alors, avant de revenir sur la Convention, j'aimerais lire un poème d'un écrivain de Gaza. Ce poème était passé dans les réseaux sociaux, mais peut-être vous n'avez pas entendu. C'est de Refaat Al-Arir, qui était assassiné par l'État d'Israël à Gaza la nuit du 7 au 8 décembre l'année dernière. Oui. Refaat était professeur, il était écrivain, il était professeur de lettres et il avait fondé le mouvement We Are Not Numbers, nous ne sommes pas les numéros, qui faisait les liens entre les auteurs professionnels, expérimentés et les jeunes et les enfants à Gaza ou même en Palestine, je ne suis pas sûre, voilà, pour créer des liens et les encourager. Alors, c'est un poème qui s'appelle « Si je dois mourir ». Il l'avait écrit un mois avant d'être tué. Si je dois mourir, tu dois vivre pour raconter mon histoire, pour vendre mes affaires, pour acheter un morceau de tissu et quelques ficelles. Fais le blanc avec une longue traîne pour qu'un enfant quelque part à Gaza regarde le paradis dans les yeux en attendant son papa parti en fumée sans dire adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à lui-même. Vois le cerf-volant, mon cerf-volant que tu as fait, son volant tout là-haut, et pense un instant qu'un ange est là, ramenant l'amour. Si je dois mourir, que ce soit porteur d'espoir, que ce soit un conte. Alors, Thérèse,
oui.
Je voudrais maintenant revenir à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et le sens de cette convention aujourd'hui pour tous ces enfants.
Merci Anne. Alors la convention de 1989, je crois, est ignorée par la plupart des gouvernements du monde concernant les enfants palestiniens. Mais pas la plupart du peuple du monde. Mais les gouvernements, alors qu'Israël blesse, tue, affame et torture les enfants palestiniens avec une impunité apparente. La convention est un accord signé par presque 200 pays et elle définit les droits fondamentaux de chaque enfant, quelle que soit sa race, sa religion ou sa capacité. Et elle comporte 54 articles qui couvrent tous les aspects de la vie de l'enfant et énonce les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et la santé. Et la convention est universelle. Et il y a une liste des droits de l'enfant, mais si je peux vous expliquer comment Israël violait régulièrement la convention. Il y avait en 2012, je crois, la Nation Unie a reçu un rapport soutenu par le gouvernement britannique où il accusait les forces de sécurité israéliennes de violer régulièrement la convention. Alors, la délégation d'avocats de haut niveau a visité Israël et la Cisjordanie et a analysé les effets du système judiciaire militaire israélien sur les enfants palestiniens. C'est un seul exemple de la violation des droits des enfants. Et dans le rapport, les avocats ont constaté qu'il y avait des faits indiscutables qui montraient que 6 articles de la Convention ont été violés par Israël. Parce que la loi militaire israélienne s'applique aux enfants palestiniens détenus par les autorités israéliennes en Cisjordanie. Parce qu'elle est sous occupation militaire. Cependant, les enfants israéliens, y compris ceux qui vivent dans les colonies, les settlements,
les colonies, oui,
occupées, sur des terres occupées en Cisjordanie, qui sont considérées comme illégales, les colonies, en vertu du droit international, ces enfants sont soumis au droit pénal et civil israélien. Alors, on voit que les enfants palestiniens ne se voient pas comme des enfants. C'est comme si ce sont des adultes qui commettent des crimes, qui sont partie d'une militaire. Et actuellement, la période maximale pendant laquelle un enfant israélien peut être détenu sans inculpation, c'est 40 jours. Mais pour un enfant palestinien, la période est 188 jours. Et je crois que maintenant, en Cisjordanie, il y a des lois qui vont être implémentées où les enfants, les jeunes enfants, peuvent être incarcérés jusqu'à 10 ans. Alors, on les voit comme des terroristes, des adultes, pas comme des petits-enfants qui développent, qui veulent jouer, qui ne comprennent pas tout ce qui arrive. Mais c'est calculé, c'est quelque chose de systématique de rendre ces enfants des pas-enfants.
Oui, nous avons vu peut-être dans les images, dans les actualités, les feuilles qui sont qu'on laisse tomber par les avions pour informer les résidents. À Gaza, par exemple, des personnes recherchées et souvent vous voyez les visages d'enfants avec le nom. Voilà.
Oui,
c'est terrible. Mais au niveau des sanctions, est-ce qu'il y a eu des sanctions? Comment ça se passe si on ne respecte pas cette convention qu'on a signée?
Mais c'est seulement le peuple qui vont imposer quelques sanctions. Ce n'est pas les gouvernements. Excepté peut-être à l'Espagne. Il y a quelques pays au monde qui refusent de reconnaître qu'il est acceptable d'envoyer des armes à Israël. Mm-hmm. Mais il n'y a pas beaucoup de sanctions, je crois, par les gouvernements. Alors, c'est pourquoi le BDS, c'est la chose qui peut changer quelque chose, parce que nous sommes des millions.
Oui, et partout dans le monde aujourd'hui,
oui.
On voit de plus en plus.
Oui.
Donc ça, il faut continuer, faire pression.
Oui.
Donc... Est-ce que, alors, au niveau du, vous avez récemment créé un groupe pour les cliniciens qui travaillent justement pour la santé mentale des enfants,
oui.
Avec un accent sur les parents palestiniens et les bébés, enfants et adolescents. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce groupe d'enfants que vous venez de créer, Thérèse?
Oui, comme je dis, c'était moi avec trois autres psychothérapeutes pour enfants. Nous avons décidé de créer un groupe au sein du réseau, mais spécifiquement pour nous concentrer sur la santé mentale des enfants, des parents en Palestine et maintenant au Liban. C'est parce que notre organisation professionnelle est réticente à faire une déclaration sur le génocide à Gaza. Alors nous avons réalisé qu'ils ne vont rien faire. Alors c'est nous qui devons le faire nous-mêmes. Et on est en train de créer un compte Instagram. Aujourd'hui, on a écrit au ministre des Enfants au UK et à nos députés locaux. On leur demande de parler des droits des enfants palestiniens à la Chambre des communes aujourd'hui, parce que c'est la Journée internationale des enfants.
Mm-hmm.
Alors aussi, nous allons demander aux églises de considérer une campagne à Noël pour mettre en lumière ce qui arrive aux enfants à Bethléem.
Mm-hmm.
Et je ne sais pas si vous avez vu ou écouté Munta Isaac. Il a donné un serment très émouvant depuis son église à Bethléem l'année dernière.
Oui.
Et je crois que le titre était « Jésus sous les décombres ».
Oui. Nous avons peut-être vu la photo de la crèche qu'ils avaient créée, ce qui est très... Oui. Très, très fort.
Alors, le groupe nous nous rencontrons en ligne et nous venons d'avoir notre deuxième réunion. Alors, c'est très jeune. Les membres du groupe vont rédiger des articles sur le sentimental des enfants en Palestine. Certains ont écrit des poèmes. Nous partageons des informations sur des événements, des films, de la musique liée à la Palestine. Et nous sommes, comme je disais, un groupe très nouveau, mais il y a beaucoup d'enthousiasme, surtout parmi les jeunes.
Oui, Thérèse, concrètement, comment ça fonctionne, le groupe? C'est qui? Vous vous rencontrez comment?
Nous rencontrons en ligne. Moi, je directe un peu. Il y a plusieurs personnes qui ils sont partout en UK.
C'est que alors, les enfants du Royaume-Uni, c'est ça?
Nous avons deux personnes d'Italie, deux de les États-Unis. Et nous aimerons inclure des Tunisiens de Palestine, mais on ne veut pas les mettre à risque.
Oui, c'est ça.
Parce que nous allons demander le BDS. Ah. Alors, c'est contre la loi. Alors, c'est un peu dangereux pour les Palestiniens. Mais s'ils sont... en autre pays, la France, l'Allemagne, non, pas dans la Palestine, on sera très, on les recevra avec plaisir.
Ah, voilà, très bien. Vous avez des liens avec les personnes à Gaza, les oui. professionnels, oui?
Oui,
oui. Oui.
Mm-hmm. Nous avons... Il y a une organisation qui travaille avec les familles en Jérusalem-Est, avec les cliniciens à Gaza, le centre de trauma Palestine, PTC.
Et qu'est-ce qu'ils demandent là-bas, les professionnels et les jeunes et les enfants? Ils demandent, quel est leur appel? Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils attendent comme de vous?
Ils attendent que nous avons une voix.
Une voix pour eux, pour donner voix à leur voix?
Pour eux, oui. C'est il faut que... Nous ne pouvons pas refuser de faire ce que les gens en Palestine demandent. Et pour nous, nous pouvons refuser de complicité avec le silence de nos gouvernements, ne pas collaborer avec les organisations qui continuent d'ignorer le génocide à Gaza. Je crois que nous pouvons avoir un impact, nous pouvons faire pression sur nos organisations, informer nos amis et collègues de ce qui arrive à nos collègues en Palestine ou au Liban. Il faut que nous sommes une espèce de mégaphone pour eux.
Oui, amplifier les voix.
Oui, oui. Et ne pas craindre d'avoir une voix ici.
Il n'est pas facile... Peut-être au Royaume-Uni, mais il n'est pas facile en France, je pense.
Oui, mm-hmm. Oui. Et je crois que partout, c'est très difficile. Mais pour quelqu'un comme moi, je ne suis pas jeune, alors je travaille un peu, mais je ne suis pas dans la position de quelqu'un plus jeune qui risque leur carrière.
Oui, le licenciement, par exemple, ou autre chose, les sanctions.
Oui.
Mm-hmm.
Oui. Et il est facile, je sais que peut-être on va parler de ça plus tard, mais est-ce que je peux parler un peu de l'importance de ne pas tomber dans le désespoir?
Absolument. Alors, j'aimerais juste faire une pause et nous écouterons encore les enfants du camp de réfugiés Aïda à Bethléem qui chantent leur résistance.
Parfait.
Nous avons très bien entendu à travers ces jeunes voix le résistance, la créativité, ouais. L'espoir, le soumoud, comme on dit en arabe. Thérèse, alors ouais. parlez-nous de des choses difficiles et les choses positives que vivent les jeunes, les enfants.
Mais c'est impossible de ne pas admirer les jeunes. Qu'on a entendu chanter, leur courage en face de la terreur.
Oui, il faut savoir que le camp d'Aïda, si j'ai bien compris, est l'endroit le plus, qui reçoit le plus de gaz lacrymogène dans le monde entier.
Oui, oui. Mm. Alors, il est très, très important pour nous de ne pas être paralysés par l'énormité de ce qui se passe en Palestine et au Liban. Et nous avons fait partie de No Child a Target. Je ne sais pas comment dire ça en français. Aucun enfant...
Un cible.
Ok.
Un cible, oui, c'est Target, un cible. Oui, oui, très bien.
Alors, c'est une campagne mondiale lancée par le réseau Palestine Sentimental Mondial aux États-Unis et mondial. Mm-hmm. La campagne vise à sensibiliser à la violence d'Israël contre les enfants palestiniens et à insister pour que les gouvernements du monde entier veillent à ce qu'Israël soit tenu responsable de la Convention des droits de l'enfant. Alors, nous allons faire ça sur notre Instagram au UK. Alors, ça, c'est une chose. Alors, les lettres dont je parlais plus tôt, j'ai envoyé aux collègues et amis un exemple de la lettre que j'ai envoyée au ministère. Et une personne a dit qu'elle a demandé à 50 personnes d'écrire la lettre à la au ministère.
À son député, alors, c'est ça?
Son député. Et la personne qui est le directeur, la directrice du département des enfants en Angleterre.
Oui, c'est un service public?
Oui.
D'accord.
Mais c'est un service public, mais dans le parti du gouvernement. Alors, il faut presser cette directrice à faire quelque chose ou dire quelque chose. Alors, les erreurs que nous voyons dans les médias peuvent nous faire sentir impuissants. Et que cela ne vaut même pas la peine d'essayer. Car ce que nous pouvons faire peut sembler si petit. Beaucoup de gens me disent ça. Mais nous, nous devons nous rappeler l'importance de la solidarité, que les gens en Palestine entendent parler de ce qui se passe en termes de soutien à la lutte pour la paix et une vie normale. Les gens à Gaza, quelquefois, ils entendent les nouvelles et voient les vidéos des manifestations. Alors, je répète, nous devons être un mégaphone pour les enfants palestiniens et libanais qui n'ont pas de voix et dont les parents sont constants au silence.
Mais comment cette voix, cette amplification des voix de ce que ces côtés en dehors de la Palestine, comment ça peut revenir chez les Palestiniens pour qu'ils se sentent confiants? Parce qu'on entend souvent, on se sent abandonné, faites quelque chose, vous ne faites rien, etc. C'est compliqué.
Plusieurs de nous dans les réseaux ont des collègues et des amis en Palestine. Et on, quand il y a de Wi-Fi, on peut parler avec eux. Et souvent, ils ont vu à TikTok ou Instagram ou dans le média, ils ont vu des manifestations, ils ont vu des choses comme Palestine Action qui veulent fermer les usines en Angleterre qui produisent des armes pour Israël. Mm. Et il y a des personnes que je connais personnellement à Gaza et je les vois, je les envoie des vidéos. Quand je peux, je parle avec eux. Alors, souvent, elle dit, oui, nous savons ce qui se passe. Alors, quelques-uns, peut-être, se sentent isolés, mais il y a des gens dans le... particulièrement dans le area de santé mentale, avec qui nous avons des liens, qui savent ce que nous faisons. Et pour les gens ici en Angleterre qui disent oh, ça ne va changer rien, faut pas essayer, c'est pas la peine. Je lui dis que le fondateur de Amnesty International,
oui,
Peter Benenson, il a dit il vaut mieux allumer une bougie que maudire l'obscurité.
Mm.
Alors, je leur dis allumez votre propre petite bougie.
Oui, si tout le monde faisait pareil, ça serait...
Des milliers de petites bougies peuvent brûler vivement et très chaud.
Mm.
Parce qu'il faut qu'on se souvienne qu'il y a maintenant plus de 400 jours de génocide.
Oui, j'ai lu que Gaza est le lieu avec le plus d'enfants amputés dans l'histoire moderne des guerres.
Oui.
C'est oui. Comment les enfants gardent le joie de vivre, le envie de vivre, c'est ça qui est tellement tragique aussi, qui est tellement difficile.
Oui, il y a un centre de trauma à Gaza et ils ont ce qu'ils appellent les jours de joie.
Les jours de joie.
Les jours de joie.
Comment ça se passe?
Ils ont bossé. Et cela a émergé de l'initiative de quelque chose qui s'appelle Le Vendredi de la Joie, qui a commencé en 2014 sous forme de jeu organisé pour les enfants dans une rue près de chez eux. Et cela a évolué à une série d'activités et de divertissements pour aider les enfants à réveiller leur capacité de résilience face aux événements traumatisants et à la dépression. Alors, il y a une équipe de 10 animateurs, des clowns et psychologues qui arrivent dans une zone après les prières du vendredi et ils bloquent une rue et les enfants et les familles s'assoient ou se tiennent debout autour des animateurs, les ayant d'abord rencontrés et les clowns ayant eu leur visage peint ainsi que les enfants. Et c'est échauffé un peu de mouvement sur la musique. Et les activités, les principes sont de essayer de secouer le traumatisme.
Secouer le traumatisme, c'est-à-dire?
Oui, parce que il danse, il a un relâchement progressif de la tension musculaire, des mouvements faciles et répétitifs.
Donc c'est très corporel.
Oui, oui. Souvent en musique. Alors, c'est quelque chose que les enfants font tous ensemble.
Mm-hmm.
Ils écoutent la même musique, ils font les mêmes mouvements. Et c'est un moyen de distraire les enfants des souvenirs traumatiques, du moins pendant la durée de l'exercice.
Et donc, ils passent combien de temps ensemble? Peut-être une heure ou un peu plus?
Je crois que c'est peut-être une heure. Probablement, c'est assez pour les enfants. Parce que beaucoup d'enfants sont blessés ou ont faim. On perdu les parents, il faut qu'ils aient quelque temps pour rester, pour dormir, peut-être, après.
Et donc, l'équipe de 10 personnes, c'est une équipe locale, je pense.
Oui, oui.
Et ça se passe dans le sud de Gaza? Ça se passe où exactement?
Je crois que c'est dans le sud en ce moment, mais auparavant, je crois qu'il se passait partout à Gaza.
En tout cas, il bouge pour rencontrer les enfants.
Oui, oui. Et on peut voir sur le website de Palestine Trauma Center, on peut voir les enfants dansant, chantant.
Ah, c'est ouais. Merveilleux. Donc, c'est quoi le nom du site, Teresa, s'il vous plaît? Palestine Trauma Center.
Center, oui, c'est ça.
Trauma, et puis après Center, C-E-N-T-E-R, c'est ça? Ou
c'est ça.
R-E,
c'est ça.
À l'américaine.
R-E.
Ah, R-E.
R-E.
On va pouvoir le trouver, alors, par Internet, si ouais, ça nous ouais. intéresse. Merci beaucoup pour ça. Et... Alors, qu'est-ce que nous arrive? Il nous reste 10 minutes, un peu moins peut-être. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu des familles, peut-être comment le trauma peut affecter les grands-parents, les parents, les enfants? Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du transgénérationnel?
Alors...
Et comment éviter?
Dr. Sama Jabra, qui travaille à Jérusalem, et je crois des années passées, elle travaillait beaucoup à Gaza. Et elle dit, et ce sont ces mots, elle dit, les politiques oppressives, le déplacement et la négation des foyers ont des effets durables sur les familles et les générations. l'absence d'un environnement familial stable et les facteurs de stress chronique impactent la santé mentale à travers les générations. Le traumatisme n'affectera pas seulement l'attachement entre un parent et un enfant, mais peut aussi se transmettre à la descendance. Alors, il y a des recherches sur les changements épigénétiques, la transmission du trauma du parent à l'enfant.
Oui.
Et une chose qui est très difficile, c'est si l'enfant n'a pas de parents. Parce que je crois qu'il y a à peu près 35 055 enfants à Gaza ont perdu un ou les deux parents. Mais c'est... On peut perdre un parent parce qu'ils sont tués, mais aussi on peut perdre un parent parce qu'ils sont complètement détruits par le trauma.
Oui.
Et peut-être le meurtre des autres enfants. Alors, ils sont absents dans une façon émotionnelle.
Mm.
Et c'est pourquoi les grands-parents, les voisins, les voisines, le Palestine Trauma Center avec les jours de joie sont très, très importants pour donner à l'enfant un sens de communauté.
Oui, beaucoup passe par la communauté, c'est ça.
Oui. Et aussi, pour donner à l'enfant un sens de pouvoir dans leur corps. Parce que ils ont faim, ils ont blessé, ils ont peur. Mais si quelque chose comme les jours de joie peuvent leur donner un sens de ce n'est pas seulement moi, les autres enfants sont comme moi. Il y a des adultes, peut-être pas mes parents, mais les adultes qui va s'occuper de moi. Non, la transmission épigénétique, je crois que ça, le trauma peut être passé de la mère à l'enfant, mais si la mère reçoit quelques thérapies de physique, mais aussi psychologique, ça peut être réduire le trauma qui passe à l'enfant.
Oui.
Alors, c'est pour ça que c'est très, très important que les enfants, qu'on s'occupe des enfants, leur corps, leur sentiments, leur vie psychologique, pour sentir leur pouvoir, qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a de l'espoir. Et je crois que les Palestiniens peuvent nous enseigner beaucoup.
Ah oui.
Sur l'espoir, le semud.
Absolument.
Ne pas cesser de lutter.
Absolument.
De crier, de protester, de marcher.
Et aujourd'hui, Thérèse, que pouvons-nous faire? Alors, nous écoutons l'émission, peut-être. Qu'est-ce que moi, je pourrais faire, par exemple, suite à ce que vous nous avez partagé?
Je crois qu'il faut faire du bruit.
Faire du bruit.
Oui. Et n'importe comment.
N'importe comment.
Ne ne pensez pas que quelque chose est trop petit pour être puissant. Parce que ce n'est pas le cas. Parce que c'est tout le monde peut faire quelque chose de très petit. Mais tout le monde devient très puissant après.
Alors, ça, ce que vous venez de dire m'évoque l'enfance. M'évoque l'enfant finalement qui fait du bruit, il n'y a rien qui n'est pas important pour l'enfant, il se met pleinement dans quelque chose, peut-être nous devons revenir, devenir comme des enfants.
Oui, c'est ça, et ne pas avoir peur de ce que les autres disent, s'ils sont des ionistes, ou des islamophobes. Il faut prendre notre courage dans les mains et continuer comme les Palestiniens, suivre leur exemple.
Oui. Bon, suivons leur exemple. Merci beaucoup, Thérèse. Nous arrivons vers la fin de l'émission. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce soir et merci de tout ce que vous nous avez partagé. À bientôt pour la prochaine rendez-vous. Merci. Au revoir, Thérèse.
Merci beaucoup, Anne. Au revoir, tout le monde. Au revoir, Anne.
Au revoir.
Au revoir.
أدرس الطبيعة، تحب الموسيقى، أدرس الموسيقى. ما تسمع الناس اللي بيقولوا لكم أدرسوا شيء حتى تعملوا وظيفة حتى تجيبوا مصاري. اسمعوني بالله. فأنا بنصحكم يعني إنه تتبعوا الأشياء اللي بتحبوا تعملوها. في مواضيع كثيرة ممكن تعملوها. أنا لما درست الحيوانات لأنه بحب الحيوانات. أحب الجلسات كتبت كتاب عن ثدييات فلسطين وكتاب عدة كتب ما فيه كتاب عن المقاومة الشعبية في فلسطين أنا كمان بحب المقاومة الشعبية فتقولون يمكن أكثر من 12 مرة الإسرائيليين ولا زال أقاوم ومش حابيننا ولا حابين الشغل هذا ليش؟ لأن الشغل هذا الزراعة البيئية اللي شفتوها تحت مثلا هو نوع من المقاومة أي شيء بتعملوه التعليم هو نوع من المقاومة كل شيء بتعملوه هو مقاومة للاستعمار فأنا منصحكم يعني ما تستعملوش بلاستيك زي هذولا ولا ما تستعملوهم ما ترموهم يعني منصحش حتى في بلاستيك نهائيا تستعملوا بلاستيك الواحد يكون معاه كنينة عبيها مية ويرجع يستعملها ما في مشكلة فحافظوا على البيئة لأن هذا كمان نوع من المقاومة فهمتوا علي؟ إذا في عندكم أي أسئلة إحنا تطوعوا هنا تقدروا تيجوا تطوعوا نرحب بالمتطوعين يوم مثلا شباب عايزة ممكن يجوا هنا يزرعوا قنطرات يوم أو يعملوا نشاطات
شكرا لك نشكرك كف كف للأستاذ شكرا